2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Fabrice Drouel.
Alors concernant votre sujet aujourd'hui, je dis bien vu.
Oui, un sujet jamais traité par les historiens, une histoire des lunettes. J'ai des besicles pour les vieilles, des monocles qui font merveille. J'en possède pour tous usages, pour chausser les gros nez des sages, pour corriger la vue des fous et rendre clairvoyants les jaloux. Poème du XVIIe siècle. D'histoire. Si la myopie et la presbytie ont toujours existé, il a fallu attendre le XIIIe siècle pour qu'on les corrige avec des lunettes. Il y a moins de 20 ans que l'art de confectionner des lunettes à l'aide desquelles on peut voir a été inventé. C'est un des arts les plus utiles au monde, écrivait en 1305 le moine dominicain Fra Giordano da Rivalta. Mais à l'époque, la mauvaise vue était considérée comme une tare, et les lunettes coûtaient si cher que seuls quelques privilégiés pouvaient en acheter. On évitait de les porter en public, sauf dans les abbayes où les moines perdaient la vue, à force de lire et de recopier les manuscrits du Moyen-Âge.
Pax vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir, vous et vos frères franciscains, dans notre abbaye.
Quand nous nous quittâmes, il me fit don de ses lunettes. J'étais encore jeune, me dit-il, mais un jour, elle me rendrait service. Et en vérité, je les ai sur le nez, alors que j'écris ces lignes.
Et ce père Grassi l'a fait lui-même avec la lunette que je venais de lui offrir.
Lunette que vous aviez achetée en Hollande.
Mais pas du tout, je l'ai entièrement fabriquée. Les verriers de Murano m'ont aidé, demandez-leur.
Dominique Cuvillier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions du Chêne un beau livre à vue d'œil, l'aventure des lunettes. Alors une aventure à laquelle les historiens ne s'étaient encore jamais intéressés, alors qu'il y aurait 4 milliards de malvoyants aujourd'hui dans le monde, dont 1 milliard et demi portent des lunettes, sans savoir d'ailleurs ni où, ni quand, ni comment elles ont été inventées. Vous le rappelez, c'était en Italie, au XIIIe siècle. On se demande d'ailleurs comment l'humanité, où il y avait déjà des myopes et des presbytes bien avant le XIIIe siècle, a pu attendre justement le XIIIe siècle pour pouvoir corriger sa vue.
Dans un premier temps, il faut penser que nous étions avec une population qui était majoritairement paysanne, donc finalement qui avait une activité, j'ai envie de dire, assez basique, assez primaire. Donc les gens se contentaient finalement de, même quand ils avaient une vue qui n'était pas très très bonne, se contentaient effectivement de cette situation. D'autre part, ils considéraient que ça participait de l'usure naturelle de la machine humaine. Donc finalement, il n'y avait pas de raison de corriger la vue.
Alors on utilisait quand même, vous le rappelez, des moyens de fortune, par exemple une boule de verre remplie d'eau pour pouvoir lire. Vous citez aussi cette anecdote étonnante, c'est la façon dont Néron protégeait ses yeux du soleil.
Oui, avec une émeraude effectivement qui est placée devant les yeux pour permettre effectivement de réduire la violence du soleil.
Alors on essayait aussi de soigner avec des remèdes de bonne femme, de soigner la mauvaise vue.
Une multitude de décoctions avec des plantes, etc. dont on essayait effectivement de... Parce qu'on peut supposer que certaines personnes, évidemment avec de la cataracte par exemple, donc qui crée effectivement un voile sur le regard, donc on essayait de corriger par exemple cette maladie avec des décoctions. Tout ça devait être quand même assez aléatoire.
Et puis alors il y avait, c'est peut-être l'ancêtre, le premier verre au fond de lunettes, même si on peut pas parler de lunettes encore, utilisé, c'était ce qu'on appelait la pierre à lire.
La pierre à lire, donc en fait c'était une gemme, c'était ce qui s'appelle le béryl, donc effectivement une pierre qui permettait, qui avait une transparence très 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 pure, quand on en trouvait effectivement les pures possibles, et qui permettait effectivement, comme un effet de loupe, de lire des textes.
Et puis alors, évidemment, le progrès l'existence, la naissance de la lunette dépend des progrès de la verrerie et puis de la conscience que l'on prend que des verres, selon qu'ils sont convexes ou concaves, permettent de corriger la vue.
Absolument. Et l'extrait d'ailleurs est intéressant parce qu'effectivement, c'est Murano qui va déclencher effectivement, entre guillemets, cette industrie qui va permettre en effet de faire un verre très clair et donc de d'imaginer les premières lunettes.
Murano près de Venise, hein, c'est d'ailleurs là qu'apparaissent les lunettes. Alors on ne sait pas, et avant la lunette, encore une fois, la loupe. Alors
Absolument. Là,
c'est une invention extraordinaire, donc pas tellement en soi, mais parce qu'on ne sait pas du tout qui l'a inventé.
On ne sait pas. Comme les lunettes, on ne sait pas du tout quel est le créateur, effectivement, de cet appareil.
Alors tout ça servant à corriger la mauvaise vue, considérée comme une tare, et les lunettes d'ailleurs comme des prothèses, un préjugé qui a duré longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, quand il n'était pas question de faire porter des lunettes au dernier empereur de Chine, qui avait une mauvaise vue, l'empereur Puyi.
Regardez mon oreille gauche, s'il vous plaît. Merci. La droite, maintenant. Merci. Veuillez suivre mon doigt, je vous prie. C'est extrêmement simple, Johnston. L'empereur a besoin de lunettes.
Comme Harold Lloyd?
Impossible. Un empereur ne porte jamais de lunettes. Ceci ne peut pas être toléré.
Les temps sont maintenant révolus, vos altesses.
Si Sa Majesté ne porte pas de lunettes, Johnston, elle risque de perdre la vue.
Malgré mes deux yeux en amande, un cadeau de mes bons parents, quand je sors tout beau, j'appréhende un tel petit inconvénient. C'est pour ça comme je suis pratique et qu'il faut se précautionner. Depuis tantôt, c'est véridique, je viens de faire l'achat d'un pincé, car sans binocle, le nom d'un chien, c'est embêtant, je ne vois plus rien. Lorsque sans pincé, première fois, je me colle le nez dans tous les plats. Un soir, avant de me mettre au lit, j'ai mis le pied dans mon vasendi. C'est amusant, la myopie.
Je suis myope par Constantin de la Scala, c'est en 1921, une chanson contemporaine de cet empereur Puyi que l'on contraint finalement à porter des lunettes parce que c'était très mal vu. Et ça, depuis très longtemps, ça a toujours été, dites-vous, une tare, au fond, d'être myope et de porter des lunettes.
C'est en effet, c'était considéré comme une tare, puisque on partait du principe que c'était une dégénérescence, donc effectivement, qui touchait l'intégrité de l'individu. Donc on considérait que c'était une chose qui était absolument insupportable. D'autre part, c'est intéressant avec cet exemple de cet empereur, c'est qu'en effet, les classes dominantes, les gens de pouvoir, ne voulaient pas porter de lunettes parce que c'était un signe qu'ils avaient une activité intellectuel, professionnel. Or, leur seule activité, c'est effectivement de diriger sans avoir effectivement à s'adonner au travail. Ça, c'est amusant parce que d'ailleurs, ça répond exactement pendant très très longtemps, par exemple, on considérait que les gens qui avaient la peau hâlée étaient des travailleurs puisqu'ils étaient à l'extérieur. Donc, il fallait avoir la peau très blanche pour signaler qu'effectivement, on avait un rang social important. Et les lunettes participaient exactement de la même démarche. Vous portez des lunettes, donc vous avez une activité professionnelle, donc vous êtes un travailleur, donc vous n'êtes pas noble, entre guillemets.
Dans toutes les peintures, en remontant au Moyen-Âge, celui qui porte des lunettes est toujours tourné en dérision.
Absolument. Ouais. Et les seuls dont on tolère le fait qu'ils aient effectivement des lunettes, ce sont alors les moines, notamment, qui ont été les premiers intellectuels, donc effectivement, parce qu'ils avaient une activité d'écriture et de lecture. Donc eux, on tolérait, entre guillemets, en tout cas, eux, ils avaient une nécessité de porter des lunettes, c'est pour la raison pour laquelle, évidemment, ils en avaient.
Et puis le porteur de lunettes est presque considéré comme suspect. Je cite Goethe, hein, au 19e siècle, « Que sais-je, que puis-je savoir d'un homme dont je ne vois pas les yeux quand il parle et qui a le miroir de son âme voilé par deux morceaux de verre. »
Oui, exactement. On a l'impression que c'est effectivement tout à fait suspect. Et c'était assez amusant parce que de la même manière pendant très longtemps, je le précise d'ailleurs dans le livre, les jeunes filles qui avaient une mal vue étaient considérées effectivement comme débiles, entre guillemets, donc tarées, donc elles n'étaient pas bonnes à marier. Donc il fallait pas du tout effectivement préciser ce détail.
Autre chose suspecte, c'est ceux qui les vendent ou qui les fabriquent, en tout cas qui les vendent, qui sont considérés un petit peu comme des charlatans qui vendaient des lunettes au Moyen-Âge.
Alors, c'était effectivement des marchands qui avaient trouvé là un filon tout à fait intéressant, et d'ailleurs, ils vendaient de la même manière des livres, c'est-à-dire effectivement, ils cumulaient les deux objets, parce qu'effectivement, la plupart des gens avaient besoin effectivement de lunettes. Alors, c'était fait avec des verres grossiers qui étaient mal équilibrés, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de médecins à l'époque qui empêchaient les gens de porter des lunettes en disant, vous allez effectivement détériorer davantage votre vue, donc ils interdisaient presque effectivement le port des lunettes. Et notamment d'ailleurs, c'est intéressant de citer Goethe, parce que les Allemands étaient très virulents, ils n'acceptaient pas effectivement les lunettes qu'ils considéraient comme un appareillage absolument inutile.
Alors les lunettes, c'est aussi l'histoire des montures de lunettes, d'ailleurs on peut parler de lunettes, les petites lunes hein, à cause de leur forme,
absolument.
Qu'à partir du moment où on passe de la loupe à deux loupes. En fait, la première lunette, c'est ce qu'on appelle le bésicle, cloutante. Alors, vous citez cette formule qui est au fond l'invention de la lunette. Si d'aventure nous lions deux loupes avec un clou à l'extrémité des tiges, nous obtenons une double lentille qu'il suffit de poser sur le nez. C'est ça la première lunette. En fait.
C'est tout simple, c'est tout bête. Et on appelait ça bésicle parce qu'effectivement, elles étaient issues de la béryl, donc la fameuse gemme qui permettait effectivement de réaliser le verre.
Et puis alors on a du mal à porter ces bésicles sur le nez parce qu'elles sont très lourdes à cause des verres, c'est des culs de bouteille.
Ce sont des culs de bouteille, qui plus est, alors il fallait effectivement pour les maintenir sur le nez, donc serrer énormément ce fameux clou, donc les gens effectivement avaient une voix nasilla, ce qui était, on le retrouvera d'ailleurs avec les pince-nez plus tard, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a appelé ça effectivement un pince-nez, et ce qui est assez amusant c'est que donc les gens trouvaient mille astuces pour que ces lunettes puissent tenir sur le nez, donc des rubans, etc., des coiffes pour permettre effectivement de supporter ces lourdes montures sur le nez.
Alors on en voit beaucoup hein, dans ce livre qui est magnifiquement illustré depuis les bésicles cloutantes du Moyen-Âge jusqu'aux branches latérales, alors celles qu'on porte aujourd'hui, hein, qui sont supportées par les oreilles et qui n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle, très tard.
Très, très tardivement. Alors on a eu l'idée encore une fois au départ de mettre un cordon pour relier effectivement, pour tenir effectivement ces montures, et ces fameuses branches sont arrivées effectivement assez tardivement. Et là c'est pareil, on est assez flou sur le véritable créateur de cet objet, puisque c'est un Anglais et un Français qui le revendiquent en même temps.
Alors cela dit, elles sont fabriquées depuis dans un petit nombre d'endroits spécialisés, comme cette ville du Jura, visitée par le général de Gaulle en 1962.
C'est à 14 heures que les 32 voitures qui forment le cortège, proprement dit, quittaient la sous-préfecture de Saint-Claude pour aborder immédiatement les rampes du Jura. Premier arrêt de cette demi-journée, Moret, où le chef de l'État s'entretiendra quelques minutes avec le maire, que nous avons aussi rencontré.
Monsieur Vodam, vous êtes le maire de Moret, c'est-à-dire d'une ville qui a une double activité, je crois.
Une double activité, oui, la lunetterie et l'horlogerie. Autrefois, l'horlogerie primait sur la lunetterie. Enfin, depuis un certain temps, surtout depuis la guerre, sur la lunetterie qui s'est le plus développée, qui est en expansion, on peut le dire, et qui s'apprête à attaquer le marché commun avec confiance, avec une certaine confiance.
Alors, très concentrée géographiquement, cette industrie de la lunette, on vient de l'entendre, Dominique Cuvillier, Moret, Oyonnax, hein, quelques villes de l'Est de la France, pour quelle raison?
Alors, Moret a commencé effectivement au XVIIe siècle, c'est un monsieur qui s'appelait Pierre-Hyacinthe Lamy, qui avait une tréfilerie, donc lui faisait des clous, tout simplement, des clous de Paris, ce qu'on appelait à l'époque, et en fait, il portait des lunettes, et ces lunettes se sont cassées à un certain moment, et il a voulu les réparer, donc il a utilisé effectivement son métal pour refabriquer ses lunettes. Partant de là, il a trouvé qu'effectivement elles étaient plutôt pratiques, et il a commencé à en fabriquer d'autres. Notamment des commerçants de Suisse sont venus lui acheter ses lunettes, et l'affaire a démarré, et donc il y a une certaine reconversion de cette activité de tréfilerie pour se tourner essentiellement vers les montures de métal. Puisque c'est la spécialité à noter dans cette région du Jura, c'est que vous avez Moret qui défend la monture en métal, et puis Oyonnax qui défend la monture de plastique. Donc il y a toujours une petite guéguerre entre les deux. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a toujours une... Alors, bon, ça s'est largement calmé, hein, bien sûr, les gens ne s'étripent pas. Mais néanmoins, il y a toujours une petite tension parce qu'on considère que l'une et l'autre est noble par rapport à l'autre.
Alors cette industrie de la lunette est également tributaire des progrès, bien sûr, de l'ophtalmologie, l'invention notamment de la dioptrie, Dominique Cuvillier.
Oui, qui permettait là, de mesurer la faiblesse du regard, et donc effectivement de trouver des moyens de correction pour adapter des verres. Et c'est assez amusant parce que finalement, c'est quand on va effectivement chez l'opticien, l'ophtalmo, où on vous met ces espèces de gros verres devant les yeux, cet appareillage a été inventé effectivement, c'est pareil, à la fin du XVIIIe siècle, et on le retrouve, il a évolué un petit peu, mais finalement c'est exactement le même concept aujourd'hui.
Alors cette industrie, elle est concurrencée par le développement assez tardif, je crois que c'est en 1940, aux États-Unis, l'apparition de la lentille de contact. On a encore des complexes à l'époque quand on porte des lunettes, alors on s'est dit la lentille va détrôner la lunette.
Effectivement, beaucoup de fabricants à l'époque qui se sont intéressés au sujet se disaient effectivement les lunettes vont disparaître. Hein, c'était une prédiction qui était faite à l'époque, sachant que les premières lentilles de contact étaient en verre, donc on ne pouvait pas les porter. porté très longtemps. C'était très très irritable pour la cornée, très très irritable pour l'œil. Et puis effectivement, on a réussi au fil du temps à améliorer la technique et notamment à, avec l'arrivée des matières organiques, donc du plastique, à faire des lentilles beaucoup plus souples, donc plus agréables à l'œil. Cela étant, un frein demeure très important chez la plupart des gens qui ne veulent pas porter des lentilles parce qu'à l'idée de se mettre tous les matins un doigt dans l'œil pour effectivement chausser leurs lentilles, ben ça les gêne énormément. Donc c'est pour ça que les lentilles ne détrôneront jamais les lunettes.
Oui, d'autant plus que on a beaucoup moins de complexes, on n'en a même plus du tout à porter des lunettes. Elles ne sont plus considérées comme des prothèses pour des handicapés, mais comme des accessoires de la mode et même le moyen de séduire les femmes à la recherche d'un mari fortuné.
Je vais avoir 25 printemps en juillet. Ça vous met du plomb dans la tête. Un quart de siècle. On pense à l'avenir, à se décrocher un mari. Il soit très riche, ce n'est égal. Pourvu qu'il ait un yacht, un wagon privé pour voyager. Bon, je veux bien que lui bien porte des lunettes. J'ai une théorie sur les hommes qui portent des lunettes. Les hommes à lunettes sont tellement plus gentils et doux et sans défense. Ils ont les yeux fatigués à force de lire. Tu sais, ces longues colonnes de chiffres dans Wall Street Journal.
Il y a désormais une mode de lunettes. Les yeux des femmes sont des bijoux qui doivent avoir des écrins dignes d'eux. Cette année, la tendance est nettement à l'optimisme. Les verres étirés vers les tempes accentuent le charme souriant du visage et la fantaisie qui préside à l'ornementation ne connaît pas de limite. Ainsi, les verres solaires optiquement traités joignent l'agréable à l'utile et deviennent accessoires de beauté. Le papillon sur la fleur, en quelque sorte.
Quand les lunettes, comme mes lunettes, les lunettes d'une belle inconnue, elles s'écarquillent souvent leurs lentilles en s'écriant des lunettes comme vous, je n'en ai jamais vu. Voulez-vous faire un tour de verre comme serait prêt? Il fait si bon chez ma monture. Quelques pointures du casino. Quel plastique, matière plastique et esthétique vous avez là. Je sens vos branches qui frôlent mes branches. Quand je me penche, j'aperçois vos dioptries qui convergent vers moi. Je suis sincère et je préfère me casser le verre. Si j'ai menti, jolies lunettes, dites-moi j'accepte. Venez vite dans mon étui, car c'est classique et systématique d'avoir en optique un double foyer et une ribambelle, une petite jumelle et de petites lunettes à nos côtés.
Les lunettes, Sacha Distel en 1966, à une époque, vous le rappelez dans votre livre, Dominique Cuvillier, où le fait de porter des lunettes, ben ça n'est plus un handicap d'ailleurs, on n'a plus de complexe à le faire.
Samuel, dans cette chanson, c'est vraiment l'apologie tout à fait parfaite pour effectivement voir ce développement qui a commencé dans les années 60. Alors c'est le plastique hein, qui a permis effectivement cette émancipation, d'une part parce qu'on a porté de la couleur hein, qui n'existait pas, et puis d'autre part les formes aussi ont évolué, donc on avait des formes beaucoup plus grandes, beaucoup plus fantaisistes, d'ailleurs j'en montre dans le bouquin, effectivement, où on peut partir, entre guillemets, dans un délire en ajoutant des papillons, des fleurs, etc. Donc, qui permettait, effectivement, une invention esthétique qui apportait, effectivement, une différence. Parce que de la petite lunette ronde qui était, effectivement, prothèse, on est passé à la lunette beaucoup plus grande, beaucoup plus joyeuse et agréable à porter à partir de ces années 60.
Et c'est plus un handicap, hein, les stars en portent...
Alors, c'est plus un handicap. Disons que c'est toujours encore montré du doigt d'une certaine manière, mais effectivement, il y a des individus qui acceptent effectivement de continuer à porter leurs lunettes. Et je cite l'exemple de Nana Mouskouri qui est tout à fait intéressant. Effectivement, son entourage personnel et professionnel lui disait, mais déjà tu t'appelles Nana et en plus tu portes des lunettes, mais tu ne réussiras jamais dans la chanson. Bon, quand on voit évidemment ce qui s'est passé, elle a tenu tête et ses lunettes sont devenues, ça appartient pleinement à sa personnalité, c'est devenu son logotype presque d'une certaine manière.
Et puis alors on en porte même quand on n'en a pas besoin. D'ailleurs la lunette n'est plus seulement de vue, ce qui est très chic aussi c'est la lunette de soleil, celle des stars de Hollywood ou encore du général MacArthur avec ses fameuses Ray-Ban, hein. Et alors il faut absolument avoir des lunettes noires, au fond, pour se faire remarquer. Une très jolie, ça m'a fait penser à une très jolie phrase d'André Malraux qui parlait de ces gens-là qui se déguisent en éléphants pour passer inaperçus.
Oui, oui, c'est exactement ça, puisque effectivement, les lunettes sont censées vous cacher au regard de l'autre. Et au fond, quand vous portez des lunettes solaires, vous êtes encore plus vu, évidemment, parce que les lunettes solaires se portent de jour comme de nuit aujourd'hui. Et puis, le grand chic, comme vous le précisiez, c'est effectivement de les avoir sur la tête comme un bandeau pour retenir les cheveux, même quand on n'a pas de cheveux d'ailleurs.
Et puis, c'est un accessoire de mode. Tous les grands couturiers finissent par signer des paires de lunettes.
Voilà, ça a commencé dans à la fin des années 50 avec Christian Dior qui a été le premier effectivement à griffer des lunettes. Et puis tous les autres couturiers, créateurs de mode se sont engouffrés dans cette brèche. D'une part parce qu'il y avait une demande de la part des consommateurs, et puis d'autre part c'est devenu effectivement un filon, un rapport financier tout à fait important puisque les lunettes sont un accessoire qui se vend relativement cher et qui permet effectivement d'engranger des bénéfices assez confortables.
Alors l'histoire des lunettes c'est aussi bien sûr celle des opticiens.
Cadet-Roussel a trois grands yeux, l'un est borgneux, l'autre est fumeux. Il porte un monocle au troisième, il dit que c'est le meilleur système. Et que si cet œil voit, c'est grâce au monocle, le roi.
Qu'est-ce qu'il a ma gueule, au petit 2000 ?
Des lunettes à bas prix, c'est possible. La société Tati le prouve en ouvrant aujourd'hui à Paris sa première boutique d'optique.
1989, toutes les montures à prix coûtant d'Alain Afflelou. Ça nous rend fou.
Alors ces opticiens, évidemment, il faut en parler, Dominique Villiers, ils font de la pub, hein, on vient de l'entendre. Et puis la tendance a été, alors il y en a beaucoup encore en France, la majeure partie étant des artisans, un opticien
plus la majeure partie.
Mais il y en a un pour 17 000 habitants en France, hein, je crois qu'on bat quasiment tous les records, mais effectivement, ils ont tendance à se regrouper.
Absolument. Là, c'est pareil, le phénomène arrive à peu près dans les années 60. Ce qui s'est passé, c'est que préalablement, 10 ans plus tôt, c'est que la profession a commencé à s'organiser. Puisque les verriers et les fabricants de montures se sont dit, parce qu'on trouvait des lunettes, je le précise dans le livre, hein, chez des bandagistes, enfin dans plein d'endroits, vous alliez acheter votre papeterie, vous pouviez acheter des lunettes. Donc en fait, on a commencé à organiser la profession, à définir effectivement un diplôme, donc à former des gens spécialisés pour vendre des lunettes. Et partant de là, effectivement, les réseaux ont commencé à s'installer avec une idée de faire du marketing pour vendre les lunettes comme un produit de consommation courante.
Avec un grand précurseur que vous mentionnez, parce que les lunettes pendant très longtemps coûtaient cher, c'était aussi quelque chose de fallait les acheter, c'était pas forcément à la portée de tout le monde, même si la sécurité sociale les rembourse et à des taux absolument ridicules d'ailleurs, piteusement. Mais bref, tous les opticiens commencent à réduire leurs coûts pour réduire leurs prix. Vous citez Lissac en 1938 qui crée rue de Rivoli, le premier supermarché en quelque sorte de la lunette. Et puis alors, les regroupements en coopérative aussi.
Voilà, qui permettait de faire des achats groupés, donc effectivement de faire baisser les prix auprès des fabricants et pour permettre effectivement aux consommateurs d'en bénéficier. Mais il y a aussi un élément important à retenir, c'est que à partir des années 60-70, on a proposé les lunettes en libre-service. Jusque-là, effectivement, il y avait toujours c'était la vente au comptoir, hein, donc il y avait effectivement l'opticien qui proposait un certain nombre de lunettes aux clients. Et les gens ont pu, à partir de ces années 60, entrer dans une boutique et se servir, les essayer. Ça a été une révolution parce que beaucoup de gens étaient tout à fait hostiles dans la profession à cette mise en libre service. Parce qu'on disait effectivement, mais nous consommateurs ne sommes pas des pousse-caddies, nous ne sommes pas un hypermarché, nous sommes une profession sérieuse, médicale. Donc il y a eu des rétentions importantes. On voit aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup évolué.
Avec Sacol, le groupement d'achat des opticiens lunetiers, hein, le Gadol qui est devenu Optique 2000, pour n'oublier personne. Parce que on fait pas de pub, donc on va faire celle de tout le monde, ça revient au même. Guilde des lunetiers de France, voilà. Hein, c'est devenu CRIS. Atoll à Fleurloup aussi. Ça, c'était quand même un sacré phénomène.
Phénomène qui a là aussi été très très révolutionnaire, puisque c'était véritablement vendre les lunettes comme un produit promotionnel, donc d'une manière assez agressive, qui a permis effectivement de développer son réseau, puisque c'est un réseau tout à fait important. Là aussi, ça a beaucoup chagriné la profession, parce qu'on disait, mais enfin, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de brader les lunettes, alors qu'ils sont un objet effectivement complexe, technique, etc. Néanmoins, il y avait une demande auprès des consommateurs, puisque ça s'est largement développé, et aujourd'hui, tout le monde le fait. Alors, tout le monde s'en plaint, mais tout le monde le fait.
Alors, ils contrôlent les trois quarts du marché, pas Fleurloup, mais toutes ces grandes coopératives, ces grands opticiens. Alors, d'un marché qui est en expansion, qui a un avenir assuré, quand on voit les chiffres que vous donnez du nombre de malvoyants dans le monde.
C'est énorme.
4 milliards hein, sur 6 milliards et demi d'habitants, dont 1 milliard et demi seulement portent des lunettes.
La plupart des gens, alors pour des raisons de moyens, de coûts, bien évidemment, on le suppose, et puis des gens qui restent encore un petit peu en retrait en se disant, bon, je ne veux pas. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est les presbytes, qui évidemment, parce que tout le monde deviendra presbyte, hein, ça c'est inévitable, et comme la population vieillit dans tous les pays, donc il y a un développement organique des lunettes, et les presbytes sont les premiers, évidemment, qui n'ont jamais porté de lunettes, à être les plus réticents à chausser des lunettes. Mais ils y viendront d'une manière naturelle, puisque effectivement, c'est une obligation pour y voir mieux.
Et puis alors, il faut aussi tenir compte d'une chose, la lunette, on savait déjà au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, c'est le signe du vieillissement,
oui.
Et avec le vieillissement de la population mondiale, le recul de l'âge d'espérance de vie, évidemment, ça veut dire de plus en plus d'acheteurs, de consommateurs, de porteurs de lunettes, Dominique Cuvillier.
Alors, ce qui était intéressant, vous citez justement les fameuses lunettes de vieux, parce qu'en fait, quand on a inventé les doubles foyers, dans l'esprit des gens, c'était, ça y est, on bascule dans un autre monde, on devient une vieille personne, donc on est, entre guillemets, éliminé. Aujourd'hui, c'est l'apogée, effectivement, du verre progressif, où vous n'avez plus du tout ce problème-là, c'est-à-dire que les gens qui sont myopes et presbytes à la fois, on ne le voit plus grâce, effectivement, à ces verres, et les verres se sont largement affinés, donc tous les progrès technologiques et techniques qui ont eu sur les verres ont permis, effectivement, aujourd'hui, de faire que tout le monde peut porter des lunettes sans avoir ce fameux complexe, et sans, effectivement, basculer dans cet âge fatal qui nous conduit inévitablement vers la fin.
Et puis des lunettes de plus en plus fines qui disparaissent, des montures qu'on ne voit presque plus. Au fond, l'avenir des lunettes, c'est la disparition de la lunette.
C'est
sur le nez, en tout cas,
voilà,
qu'on voit de moins en moins, disons.
C'est la recherche pour beaucoup de gens, effectivement, d'avoir des montures d'une absolue légèreté. Donc c'est la non-monture. Et puis dans la mesure où les verres s'affinent de plus en plus et sont d'une légèreté inouïe, là encore une fois, c'est le verre plastique hein, qui a permis cela, puisque le verre en verre est lourd, alors que le verre organique, plastique, évidemment, est de plus en plus léger, de plus en plus fin. Donc il permet effectivement de faire disparaître d'une manière symbolique. Et c'est assez amusant, parce que d'un côté, on veut effectivement la disparition de ces lunettes, parce qu'on ne veut pas effectivement qu'elles apparaissent sur le nez, et de l'autre, on est des consommateurs de lunettes de mode qui sont, elles, au contraire, extrêmement visibles, donc qui sont dans une démonstration sociale, ostentatoire, même presque, parce que quand on voit la taille des logos sur ces lunettes, ça c'est impressionnant.
Merci Dominique Cuvillier. À vue d'œil, donc c'est le titre de votre livre, L'aventure des lunettes, publié aux éditions du Chêne. Un travail d'autant plus méritoire qu'aucun historien n'a encore écrit l'aventure des lunettes, sinon à travers l'histoire du verre en général. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano chez TF1 Vidéo, Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verreig, disponible en DVD chez Coba Film Vidéo, Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci aux éditions Avanti, Certains mêmes choses de Billy Wilder édité par MGM, ainsi qu'une archive pâtée de 1956 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Enfin, comme nous l'a écrit un auditeur ce matin, vous pouvez visiter le musée de la lunette, bien sûr, dans le Jura à Morée, berceau de la lunette française.
C'est très beau.
Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archives de la discothèque de Radio France et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gilery, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le sport au féminin.
Dis donc, t'as décoré ta boutique ou je rêve?
Écoute, j'ai fait faire deux projets par deux décorateurs.